14. Commensailles. Quand les barons durent se rassembler dans l'équipement requis par les circonstances, s'en vint tout seul entre deux rangs un chevalier de grand courage des compagnons du roi Arthur pour ouvrir le tournoi. Chrétien de Troyes. Le jour de l'adoubement, les réjouissances s'ouvrirent de bon matin. Le baladin qui la veille avait si plaisamment conté une aventure du bel églantier se fit l'orateur de la compagnie folle, la troupe de bateleurs venue de Bourg-Preux. Les amuseurs, à l'exception d'un second elfe, avaient assez louche allure. En bordure du camp du dedans, ils venaient de bricoler une scène de plein air avec quelques tonneaux et des planches probablement volées. Juché sur cette estrade, Hanoët le ménestrel faisait l'article de la pièce édifiante qui allait être jouée. À l'en croire, il s'agissait d'une moralité créée pour la circonstance. Le grison et les grisettes, dont la profondeur et le raffinement sauraient édifier un public si recherché. En fait de moralité, il s'agissait d'une farce assez grossière et largement improvisée. Le second elfe de la troupe y incarnait le grand-duc des Sacripants. Son front était orné d'andouillés tout à fait irrévérencieux, qui en faisait le cocu de la comédie, mais suggérait également la rencontre de serres des armoiries de Bromel. Le grand-duc des Sacripants était courroucé par les infidélités de la grande-duchesse Goguenarde et avait décidé de s'en débarrasser. Il poursuivait toutefois en secret le but d'épouser sa maîtresse, la maquerelle Cativeria. La pièce, fort courte, déroulait ses scénettes convenues de duperie, quiproquo, poursuite et coups de bâton. Une grande partie de son sel provenait des interprètes, l'épouse et la favorite du grand-duc étant jouées par des travestis outrageusement fardés. Un vieux goliard à l'expression matoise paradait dans les atours de la grande duchesse. Un nain barbu et édenté se prenait les pieds dans la robe de Cativeria. Les roucoulades entre l'elfe cornu et le nabot en vertugadin remportèrent un certain succès. Toutefois, à la fin de la pièce, la grande duchesse et la maquerelle, lassées de l'inconstance du grand-duc, prenaient la fuite ensemble pour filer le parfait amour. En guise de rideau, que la compagnie folle n'avait pas eu les ressources de monter, la maquerelle Cativeria retroussait ses jupes et exposait aux yeux du grand-duc une lune abondamment velue. La sottise amusa surtout le petit peuple des sergents, valets, pages et chambrières. La maquerelle Cativeria fut joyeusement huée et applaudie. Les recettes furent toutefois maigres pour les comédiens. Ils n'eurent pas le temps d'en appeler au bon cœur du public. Un bruit venu de la barrière courut soudain comme un feu de paille. « Le duc, le duc, le duc arrive !» En un instant, le grand-duc des Sacripants se retrouva quant à lui devant un parterre déserté, aussi cruellement abandonné par ses spectateurs que par ses dames. On se porta en foule vers la lys. Ce matin-là, la rumeur se vérifiait enfin. Une grande compagnie sortait du camp du dehors et marchait vers celui du dedans. Elle n'avait rien d'une troupe de guerre, car s'y mêlaient seigneurs et dames en costume de cour. Mais le nombre des cavaliers, l'élégance des palefrois, la richesse des parures et la forêt de bannières suffisaient à la transformer en démonstration de puissance. Précédé lui-même de deux héros d'armes, le connétable Anaro de Traval ouvrait la marche. Monté sur un étalon à la robe gris fer, il était vêtu de brocart vermeil, symbole du sang versé par le chef de guerre. Au flanc, il portait l'épée ducale, qui le confirmait dans son titre de chef de l'ost. Hormis cette arme, toute sa mise était civile. Il ne serait donc pas des champions qui affronteraient bientôt Blancandin sans escrègne et son conroi. On s'en félicitait dans le camp du dedans, car même habillé de samis et de soie, les épaules larges, le crâne dégarni et le faciès couturé du connétable inspiraient le respect et la crainte. Escorté d'écuyers et de chevaliers au tabard de parade, s'avançait ensuite le couple ducal. Il était difficile de ne point avoir l'œil capté par les suzerains, tant leur toilette étalait richesse et extravagance. En Amazone, sur une acnée blanche au harnais doré, la duchesse Clarissima portait une toque à aigrette blanche. Un lourd manteau d'hermine se déployait en cloche au-dessus de la croupe de sa monture, tandis que le déroulé neigeux de sa robe habillait les flancs du palefroid. L'écuyère avait posé la main, gantée de soie virginale, sur le poing de son époux, Ganelon de Bromel, qui marchait à l'amble auprès d'elle. Monté sur une cavale aile de corbeau, il était sombrement vêtu des pieds à la tête. Depuis les bottes d'un noir lustré, jusqu'au grand chaperon doublé de zibeline, en passant par le pourpoint et la houppelande de nuit, il n'était qu'obscurité. Mais une obscurité de velours et de soie lamée d'or. À voir ainsi chevaucher côte à côte le seigneur et sa dame, on eût cru découvrir l'alliance de la reine blanche avec le roi noir. Leur apparition fit sensation, et même un peu scandale dans le camp du dedans. La provocation était manifeste. Au sein de la haute société, le blanc était la couleur du deuil, et le noir celui du mépris, de la mort ou de la guerre. Ces atours ne respectaient en rien les codes requis par une fête courtoise comme un tournoi. Leur luxe ne faisait que renforcer un cinglant étalage de dédain. Du reste, le contraste entre ces parures semblait souligner, avec quel superbe, tout ce qui distinguait les époux. Le duc paraissait sans âge, à la fois jeune et vieux, vigoureux et usé, trapu, épais. Sans être vraiment gras, il respirait l'aplomb des vétérans à la fois sûrs et économes de leur force. Le front et la tempe ombrés par les plis du chaperon, le menton habillé d'une barbe roussâtre qui tirait vers le jaune, sa physionomie avait quelque chose de dissimulé. Les yeux, qu'il avait vifs et clairs, étaient plissés de profondes pattes d'oie creusées par la préméditation, les soucis et les plaisirs violents. À côté de ce grand carnassier, tout à la fois fané et conservé par la charge ducale, la présence de la duchesse Clarissima possédait quelque chose d'incongru. En particulier pour une noblesse qui s'était si longtemps soumise aux joues flamboyants de la duchesse Odéarde. La Duquesina n'avait l'air grande que parce qu'elle montait une acnée de haute taille. Brunette, menue, très jeune, fraîche sans être vraiment belle, elle aurait pu passer pour jolie, n'eût été le méchant tic dont elle ne parvenait à se défaire. De temps en temps, la commissure gauche de sa bouche se rétractait soudain, comme si elle avait voulu montrer les dents, chiffonnant toute la joue jusqu'à la paupière que froissait un spasme. La duchesse ne portait cependant ni loup ni voilette pour dissimuler cette disgrâce. Malgré cette imperfection au milieu des beautés de la cour, malgré son impopularité et son âge tendre, elle se tenait plus droite qu'un héros d'armes, promenant sa prunelle noire autour d'elle avec une froideur de vieux capitaine. Derrière le couple chevauchaient quelques parents et les officiers des hôtels ducaux. Un grand jeune homme pâle marchait d'un air absent dans l'ombre de Ganelon. Fils aîné du duc récemment établi dans ses droits de prince héritier, Lanval de Bromel concentrait sur lui les curiosités et les spéculations. L'expression perdue qui était la sienne semblait confirmer les ragots dont bruissait tout le duché à propos de sa mélancolie. Le regard songeur, il ne s'intéressait ni à la cour ni à l'accueil de la maison de Quimarc, ni même au jeune frère qu'il allait retrouver. Il était éclipsé par un autre cavalier du même âge, séduisant, affable, boutonné jusqu'au menton dans un splendide pourpoint de Tchoudalia et pourtant plein d'une gracieuse aménité. La noblesse de Quimarc s'étonnait de découvrir ce séduisant inconnu dans la suite du cal. Il n'appartenait point au lignage bromalois. Grâce à des héros d'armes bien informés, la nouvelle finit par courir qu'il s'agissait du cousin de la duchesse, sa seigneurie Cesarino Rasicari, récemment arrivé à la tête de l'ambassade tchoudalienne. L'émissaire de la République se trouvait flanqué par un cavalier non moins superbe, quoique plus mûr et moins prisé. Identifiable au grand collier qui lui barrait la poitrine, le chancelier Magnans Diacecrimen faisait la conversation au gentilhomme tchoudalien. Homme de charte et non d'épée, le puissant ministérial excitait la rancœur des gens bien nés qui ne voyaient en lui qu'un parvenu dans l'hôtel du duc. Il fallait pourtant reconnaître qu'il avait grande allure. Drapé dans une ample houppelande bleu nuit à revers d'écarlate, Sur son col doublé de petits verres étaient brodées de discrètes devises en lettres d'or. Un chapeau extravagant, orné de plumes et de lettrines orfévries, dissimulait en grande partie son visage que les mauvaises langues comparaient au museau d'une fouine. Cet aéropage bromalois se trouvait suivi par une foule de grands seigneurs, de dames et de prélats, eux-mêmes dotés de suites brillantes d'écuyers, de pages, de chantres et de héros. Le faste qu'il déployait avait soudain rétréci les dimensions et la richesse du camp du dedans. Les sergents du comte de Quimarc ouvrirent une voie à la compagnie ducale vers le pavillon comtal, tout en lui dressant une haie d'honneur menaçante. Le seigneur Claudas de Quimarc, qui pour la circonstance n'avait pas eu la fantaisie de déparer son pourpoint avec une broche ou un collier ou roman, vint s'incliner devant le duc, lui tourna un compliment avec une courtoisie irréprochable et le convia dans la tente de son père. Au seuil du pavillon, à l'ombre des auvents de brocart, attendaient Anguzel de Quimarc et Blancandin. Les entourait un groupe de hauts hommes où se mélangeaient les vassaux de Quimarc et les chevaliers disgraciés de la précédente duchesse. En tant que parrain du futur adoubé, le comte avait endossé une armure de parade. Quant au jeune prince, il était désarmé et très simplement vêtu, selon les conventions de la cérémonie dont il devait être le centre. Sur une chemise immaculée qui symbolisait la pureté de son âme, il n'avait enfilé qu'un juste au corps noir, memento mori du futur chevalier. La simplicité de sa mise, qui amincissait sa stature juvénile, tranchait au milieu de l'étalage des bijoux et des ajustements recherchés. À peine arrivé, Ganelon abandonna sa contenance majestueuse pour sauter à terre avec une désinvolture de vieux soldat. Il marcha droit vers le comte d'un pas un peu arqué de cavalier et lui frappa familièrement l'épaule.
« Ce bon vieil Anguzel, salua-t-il, toujours aussi facétieux.
J'ai grand plaisir à vous donner sujet à divertissement, cher cousin. » répondit le comte.
Et ce souci que vous avez de mes fils, quelle obligeance!
Je n'ai fait que leur accorder les égards dus à un sens innoble.
Ah, mon cousin, comme vous parlez bien, nous ne pouvons que nous entendre, vous et moi.
Le duc se tourna vers sa jeune femme. Pas plus que sa suite, la duchesse Clarissima n'avait mis pied à terre, ce qui jetait une ombre sur l'entrée de la tente.
Au fait, cousin, dit Ganelon, comme vous étiez indisposé lors de mon mariage, vous n'avez pas encore eu le privilège de rencontrer mon épouse. J'ai le grand plaisir de vous présenter Madame la Duchesse de Bromel. »
Quimarc s'inclina aussi roidement que le lui permettait son armure.
« Que je suis aise de vous accueillir sur le pré de Lindinas, madame, » salua-t-il. « Vous serez en quelque sorte la reine de la fête. »«
À tout seigneur, tout honneur, »
rétorqua la duchesse avec un sourire en coin. Ganelon s'était déjà retourné et cherchait quelqu'un des yeux dans la suite d'Anguzel.
« Je ne vois point le seigneur de Vert ?»
fit-il mine de s'étonner.
« Où diable le drôle se cache-t-il »
« Je crains que le seigneur de Vert n'ait quelque retard, » répondit le comte.
« Du retard ?» se récria le duc. « Allons donc, Vert n'est qu'à deux pas !»
Les routes d'Ouchain ne sont plus aussi sûres que par le passé.
L'insinuation fit rire le duc.
« Bien tenté, Anguzel. Mais ce ne sont pas quelques brigands à votre botte qui pourraient effrayer Méléagan. L'impudence paie votre tête comme il s'est payé la mienne. Il vous a cédé tout l'honneur d'assumer ses réjouissances et leurs conséquences. »
Le regard du suzerain s'arrêta enfin sur son plus jeune fils.
« Corps de roi, Andin, j'avais du mal à te reconnaître.
Je n'étais pas très sûr moi-même d'avoir affaire à monseigneur mon père. »
rétorqua le damoiseau sur un ton venimeux.
« Ah, mon garçon, épargne-moi donc ce fiel. Ne suis-je pas venu assister à ton adoubement ? Viens plutôt m'embrasser. Qu'est-ce qu'une querelle de famille ? Rien que de très banal, cela n'effaçant rien les liens du sang. »
Blancandin se prêta de mauvaise grâce au baiser paternel. Le duc l'étreignit avec une affection brusque.
« Ce vieux fou de Fitzurse ne t'a pas porté mon message ?»
gronda Ganelon.
« Je t'attendais hier soir. Je t'avais même réservé la place d'honneur à ma table. Après la route que j'avais faite pour toi, j'ai été fort désappointé.
Depuis les geôles de Sacralia, j'ai dû faire un chemin plus long que le vôtre, répondit le jeune homme. Et puis que voulez-vous? Dans certaines circonstances, c'est le dernier pas qui coûte.
Un sourire un peu tort éclairait la barbe roussâtre du duc. Voyez-vous cela? Ce Coquelet veut faire de l'esprit. Un trait hérité de Madame ma mère. Ah ah! En voilà une qui n'aura pas tardé à se mêler de la conversation. N'est-ce point à elle que nous devons l'agrément de ces retrouvailles?
Ganelon lui envoya une bourrade assez rude.
Ce que tu es devenu insolent! Ah, tu me plais, mon garçon! Voilà un bromel de vieille race!
Blancandin soutint le compliment avec une belle fermeté. Il avait toutefois le teint pâle, de nervosité ou de colère contenue, et faisait mine d'ignorer l'attention écrasante dont il était l'objet. Il lui fallait pourtant déployer un grand effort de volonté pour rester crâne sous le poids des regards, œillade ombrageuse du connétable et des barons, curiosité indiscrète de l'ambassadeur tchoudalien, évaluation froide du chancelier ou examen hostile de la jeune duchesse.
Mais sans la manière, l'audace n'est que de l'effronterie, poursuivait le duc. J'espère que tu auras la courtoisie de saluer Madame Clarissima.
Dame, énonça froidement le damoiseau, vous me voyez disposé à vous accorder tous les hommages dus aux personnes de votre condition.
Un tic tordit le visage de la duchesse.
Ce testa di cazzo, il me traite de catin.
« Je crains que vous n'ayez raison, » convint le duc,
« mais il y met les formes. Rendez-lui donc la politesse, ma chère. »«
Je ne m'abaisserai pas à ces petits jeux, » refusa la jeune femme avec dédain.
« Si tu me juges sans me connaître, Blancandin de Bromel, alors tu n'es qu'un idiot qui n'aura pas volé ce qu'il attend. »«
Eh bien, »
coupa Ganelon d'un air bonhomme,
« au moins les présentations sont faites. Les choses auraient pu être pires. »
Le comte de Quimarc proposa de gagner le château. Blancandin devait y recevoir la collée dans la cour avant de mener la parade des champions du jour. Du haut des murs, seigneurs et dames seraient ensuite mieux à même d'admirer le combat disputé sur le pré. Des vélums avaient été disposés à cette fin sur le chemin de ronde. Des collations et des rafraîchissements attendaient les spectateurs. Bientôt, les compagnies issues des deux camps ne formait plus qu'une immense colonne en marche vers le modeste castelet. Héros du jour, Blancandin chevauchait fort inconfortablement entre le duc et le comte. Derrière eux, Claudas de Quimarc escortait la duchesse et parvenait même à la faire rire en écorchant quelques vers du divin traditore dans un mauvais tchoudalien.
« Mon cher Quimarc, disait le duc, je souhaite chausser l'un des étriers de mon fils. »
« Considérez-vous si peu mon parrainage en chevalerie que vous désiriez y mettre la main ?»
railla le comte.
« Vous me devez bien cette faveur en contrepartie de ma modération dans cette affaire.
Monseigneur mon père pense me fléchir en ployant le genou devant moi, » persifla Blancandin.
« Si seulement !» s'exclama le duc. « Je serais même prêt à marcher pieds nus et en chemise pour que nous nous réconcilions sans en passer par ce grotesque baroud. »«
Vous savez très bien quelles sont mes conditions, père, » dit sèchement le jeune homme.
« Et tu sais très bien qu'elles sont irréalistes.
Dans ce cas, chaussez-moi un éperon si cela vous console, mais je n'en combattrai pas moins pour l'honneur de madame ma mère. »
Le duc poussa un soupir irrité.
« Ande !» « Il me déplairait d'avoir à t'humilier. Après ce que vous avez fait à ma mère, je n'en crois pas un mot. Les intrigants qui t'ont soustrait à ton noviciat t'ont trompé. Dans cette triste affaire, j'ai été l'offensé et non l'offenseur. Preuve publique en a été apportée par le jugement de mon conseil comme par le jugement des armes. Ces jugements ne valent rien. Vaumacelle n'a pas répondu de ses accusations au procès. Vous vous étiez arrangé pour qu'il soit retenu. « Comme moi, par les chevaliers du sacre. »«
Tiens donc !»«
Et où est-il donc, ce pré-séducteur ? Je me suis laissé dire que tu l'avais recruté, mais nul ne l'a vu à Lindinas. Est-ce encore moi qui l'ai retenu ?»
Le prince jeta un coup d'œil défiant à son père.
« Vous en seriez bien capable. »
Ganelon partit d'un gros éclat de rire.
« Qu'il est difficile de raisonner avec la jeunesse !»
s'égaya-t-il. « En Guzelle, parlons plutôt entre gens de sens rassis. Passons de suite sur la loyauté que vous vous êtes découverte sur le tard pour la mère de ce garçon, et allons au fait. Qu'attendez-vous de moi ?»«
En bon seigneur justicier, je ne défends que le droit. »«
Oui, bien sûr, enfin, surtout le vôtre. »
Je n'ai d'autre ambition que soutenir l'honneur d'une dame et la piété de ses enfants.
Naturellement, cousin, et permettez-moi de compléter votre pensée. En vous parant ainsi du manteau de la vertu, vous espérez m'affaiblir pour m'extorquer ensuite un bénéfice plus personnel. Sautons donc à la conclusion, que voulez-vous obtenir ?
Le comte lui adressa l'ombre d'un sourire. Si j'avais les bassesses que vous me prêtez, croyez-vous réellement que je répondrais avec franchise ?
Ce que je crois, c'est que l'homme dont nous parlons rêverait d'être libéré de son hommage, avança le duc.
Proposition trop belle pour être honnête, repartit Anguzel. Jamais vous ne me restitueriez la suzeraineté sur mes terres sans une nouvelle guerre. Dès lors, le vieux loup ébaucha de la main un geste plein d'élégance.
Autant rompre les lances,
ajouta-t-il avec une feinte indifférence. Ganelon hocha la tête d'un air pensif.
« Vous avez raison, cousin, » confirma-t-il. « Je ne vous libérerai pas de votre hommage sur ce comté. Mais la rancune que vous nourrissez contre moi vous donne des œillères. Il existe d'autres façons de nous arranger. »
En se redressant sur ses étriers, il balaya du regard le paysage printanier. Séquence sa foule de seigneurs et de dames, le petit château tout pavoisé de bannières et de dais.
« Ce tournoi doit vous coûter une fortune, » estima-t-il. « Quel profit en escomptez-vous ? Si vos armes l'emportent, vous m'aurez insulté à vos frais. Si les miennes ont le dessus, vous vous serez ruiné pour vous ridiculiser. Tout cela est bien fou. »
« Plaie d'argent n'est pas mortelle. » Quelle que soit l'issue de ce tournoi, j'aurais gagné de m'y être montré large.
Et à qui vous adressez-vous pour continuer à financer votre cour ? À vos bannerets ? Ils viennent de dépenser jusqu'à leur dernier liard dans cette fête. Aux usuriers de Caroël et de Longomore, ce sont mes sujets. Aux banques tchoudaliennes, je les ai épousés.
Qui vit noblement prodigue sans compter, cousin.
Mon crédit croît proportionnellement à mes dépenses. C'est une belle philosophie à laquelle je souscris sans réserve, acquiesça Ganelon. Malheureusement, il est des gens de basse condition qui ne partagent pas notre point de vue. Tenez, les maîtres maçons qui édifient votre nouveau château de Neuvidine, ou le ramassis de brutes que je viens d'engager comme mercenaire.
Un sourire vague continuait de flotter sur le visage d'Anguzel. Les ourmans savent très bien qu'un affamé a plus de sang aux ongles que son voisin repu, insinua-t-il.
« Voilà une maxime que tout seigneur impécunieux devrait garder à l'esprit, » ricana Ganelon.
Tout en chevauchant, ils arrivaient à hauteur du grand charme dont on venait de retirer les écus. Blancandin contempla l'arbre en tâchant de demeurer impavide. Les derniers champions du dehors avaient relevé le gant fort tard, au cours de la soirée, alors que le futur chevalier s'était déjà retiré dans l'oratoire du resplendissant pour sa veillée de prière. Il ignorait toujours le nom de la plupart des adversaires qu'il affronterait avant la fin de la matinée.
« Parlons sans détour, » poursuivait le duc. « Anguzel, vous saviez mieux que moi ce qui se passe sur la rive gauche de la Claye. Les clans se livrent à une lutte fratricide. »
« Voilà des siècles que les clans se font la guerre, » observa le comte.
« Oui, mais celle-là est la plus féroce qu'on ait vue de notre vivant. Pour nous, l'occasion est unique. Et qu'allons-nous faire ? Une bataille pour rire, entre gens de bonne compagnie, qui nous coûtera presque aussi cher qu'une vraie chevauchée et ne débouchera que sur une distribution de prix. C'est ridicule. Kimark est en première ligne devant l'Ouromagne. » Vous serez le principal bénéficiaire d'une expédition contre les barbares. Nous avons rassemblé nos troupes, j'ai l'argent de la campagne, une escadre de galères envoyée par Tchoudalia mouille à Longomore et se tient prête à appuyer notre offensive par la côte. Mettons de côté nos différends.
Unissons nos forces et allons nous couvrir de gloire en écrasant une bonne fois pour toutes ces nids de pillards. »
Le comte se permit un rictus un peu méprisant. « Les Kimarques ne vous ont point attendu pour franchir la claie, mon cousin. »
« Mais jamais avec un tel concours de force, ni pour tomber sur les reins d'un ennemi si vulnérable, vous tenez une marche frontière. Je vous propose d'en faire le cœur de nouveaux états conquis sur les friches barbares. »
Le duc se pencha légèrement vers son fils, comme pour lui parler en confidence.
« Tu vois, mon garçon, je ne fais rien pour empêcher ton adoubement. » Et ce, bien que le camouflet me fouette un peu le sang. Mais que comptes-tu faire une fois que tu seras entré en chevalerie? J'imagine que tu connais le sobriquet dont t'affublent les médisants. Blancandin sans escrègne. Blancandin sans avoir. À présent que tu as renoncé à la belle carrière que te promettait l'ordre radieux, qu'ambitionnes-tu de devenir? Un de ces petits bacheliers sans fortune? Qui poétisent leur gêne en jouant les chevaliers aventureux? Tu vas avoir besoin d'un fief. Or, je n'ai plus d'apanage à distribuer dans le duché.
Je ne suis pas venu réclamer des terres, mais soutenir le bon droit de ma mère, se piqua le prince.
Bien sûr, mais pour cela encore te faut-il des hommes, des armes et des chevaux. Donc, si tu fais les choses dans l'ordre, tu vois bien qu'il convient de commencer par le fief. Et moi, père magnanime, non seulement je paie ton ingratitude par de bons conseils, mais je t'offre même l'occasion de te constituer ce fief. Oublie ce tournoi. Marchons ensemble contre l'ennemi. Je me réserve la première part des terres conquises par les troupes ducales. Pour le reste, j'ai 4 ou 5 fils plus ou moins en droit d'hériter. Le 5e te reviendra donc.
Se redressant pour apostropher Anguzel par-dessus Blancandin, Ganelon ajouta
« Quant à vous, cousin, je vous laisserai les territoires conquis par votre banc. Ces prises-là n'étant pas couvertes par le serment que vous m'avez prêté, vous en aurez l'entière suzeraineté. »
Les cavaliers abordaient tranquillement le verger. Au-dessus du blanchoiement des pommiers en fleurs, le rempart du petit château était déjà occupé. Des pages, des dames et des demoiselles y faisaient signe au fastueux défilé des deux cours.
« Vous me promettez la possession des terres que j'aurai conquises ?» s'amusa Anguzel. « Quelle générosité !»«
Sans l'appui du duché, cousin, vous êtes condamné à répéter ce que vous avez toujours fait. Des incursions sur l'autre rive, l'impossibilité d'y garder pied. » Ce qui se soldera par des représailles et l'éternel recommencement de vos échauffourées frontalières.
Je pourrais aussi attendre que Bromel se trouve dans une position plus délicate pour négocier de meilleures conditions.
Il se trouve qu'aujourd'hui Bromel est en position de force,
rétorqua le duc.
J'ai le trésor pour me mettre en campagne. La République de Tchoudalia appuie mon offensive. Vous m'avez vous-même invité sur vos terres. Je vous ai connu plus lucide, Anguzel.
Le comte répondait mollement de la main aux dames qui s'affichaient au haut des murs.
En tant que loyal vassal, ironisa-t-il, j'ai le douloureux devoir de dire à mon suzerain qu'il néglige un grand péril. Son Altesse ducale raisonne en termes de terre, d'or et de forces armées, mais voit-elle les créatures charmantes qui nous saluent sur cette courtine?
De quoi parle-t-on à longueur de journée dans la chambre des dames? De la guerre entre les clans O'Hare et Hartclyde? Du prix du fer et du fourrage? De l'avantage que nous apporterait une escadre de galères à l'embouchure de la claie? Anguzel laissa flotter entre eux un instant de silence lourd de sarcasme.
« Voyez-vous, poursuivit-il avec indolence, depuis 2 ans, la répudiation de la duchesse Odéarde est la grande affaire de ces dames. Il faut les comprendre. Nous les entretenons si souvent du parfait amour. Nos romans rivalisent de romance. Nous leur donnons l'illusion de la soumission en acceptant leurs anneaux ou en leur offrant nos cœurs. Qui parmi ces délicieuses créatures n'a pas son chevalier servant?
Où diable voulez-vous en venir, cousin?
Qu'en condamnant votre épouse, vous les avez toutes frappées, ou peu s'en faut. Après qu'une dame d'aussi haut rang que la duchesse de Bromel a pu déchoir pour un peu de galanterie,
elles se sentent toutes sur la sellette. Cela les choque, cela les inquiète, et pis que tout, cela les indigne. Elles ne passent point une journée sans en rebattre les oreilles de leurs époux, de leurs frères, de leurs fils, de leurs amis. Elles pèsent de tout le poids de la tendresse maternelle ou des blandisses amoureuses dans une querelle que vous êtes le seul à croire close. Que valent vos opportunités, vos navires et votre or face à pareille ligue? La ruelle de ces dames fait le lit de la sédition. Prenez garde qu'elle n'emporte votre noblesse et vous laisse en tête à tête avec les clans que vous tenez si fort à défier. Le duc lui décocha un sourire en coin.
Fichtre! À votre âge, vous présentez comme le champion des dames. Vous ne manquez pas d'air, cousin.
S'il le faut, je suis prêt à payer de ma personne, assura gracieusement le comte.
Je ne suis pas très sûr de croire en ce débat de la quenouille contre l'épée.
Et pourtant, vous voici.
Je suis venu pour mes fils. Et puis aussi pour votre alliance, cousin. Je n'ai pas plus de goût pour vos sornettes que pour vos provocations. Je vous ai fait d'honnêtes propositions, et vous me répondez par un badinage de coussiège. À mon tour de vous mettre en garde. Je n'aime pas me faire éconduire quand je viens de faire une fleur.
Demain, descendez sur le pré, nous trancherons la question les armes à la main.
Ce serait déjà vous céder. Je ne m'abaisserai pas à pareille frivolité.
Priverez-vous votre fils des réjouissances en l'honneur de son adoubement? Ganelon leva les yeux au ciel.
Quel père indigne je ferais, ironisa-t-il. Je le laisserai bien sûr briser quelques lances. En fait, il me tarde même de te voir à l'œuvre, Andin.
Mais le combat du jour y suffira amplement. La grande mêlée que vous projetez demain se prêtera davantage aux mouvements de masse et aux coups fourrés qu'aux exploits chevaleresques. Ce sera plus bruyant que brillant.
Pour l'honneur d'une dame, ce sera une éclatante démonstration de courtoisie, répliqua sèchement le prince.
Ma foi, si tu trouves qu'il est licite de mêler écuyers, sergents et coutiliers à l'honneur des dames, c'est que nous n'avons pas la même idée de la courtoisie, railla le duc.
Il s'empressa toutefois de lever une main conciliante comme pour faire amende honorable.
Et si nous parvenions à un moyen terme?
Poursuivit-il sur un ton engageant.
Ne me suis-je pas montré accommodant? À vous de céder un peu de terrain, sans quoi votre intransigeance pourrait passer pour discourtoise.
Vraiment? Releva Anguzel.
Alors que nous vous invitons précisément à faire demain assaut de courtoisie? Eh bien justement, repartit Ganelon. Si je vous proposais le moyen de donner du lustre aux premières armes de Blancandin tout en ménageant ma susceptibilité. Et si nous attachions à ces commensailles un enjeu plus digne de son rang qu'une simple démonstration d'adresse et de bravoure. Nous ne parvenons pas à nous mettre d'accord sur ce tournoi. Profitons du combat du jour. Soumettons la question au jugement des armes. Si le conroi de Blancandin l'emporte tout à l'heure, j'accepterai que les chevaliers du duché descendent demain sur le pré. Si c'est le conroi de Domnal qui est victorieux, la cause est entendue, et nous remplacerons le tournoi par une offensive contre l'Ouromagne.
La proposition du duc fut accueillie dans un silence pensif.
Ce serait faire peu de cas des réjouissances que j'avais préparées, finit par dire Anguzel, sur un ton vaguement contrarié.
La fête d'Adoubement aura bel et bien lieu, et la prise d'armes de Blancandin n'en sera que plus solennelle.
Souriant à son fils, Ganelon ajouta.
Et il ne tiendra qu'à ton bras de ne point gâcher les festivités du comte. Franchement, si tu refuses de relever un défi aussi frivole, comment aurais-tu le courage de défendre un parti autrement épineux comme celui de ta mère?
Le jeune homme dévisagea son père d'un air plein de défiance.
« Vous ne révélez point le fond de votre dessein, » accusa-t-il.
« Bien sûr que non !» se réjouit le duc. « Ce serait bien sot de ma part. Es-tu franc comme l'or avec moi, mon garçon? Reste que je suis sincère dans ce que je vous dis. Tu veux défendre la cause d'Odéarde? Je te mets à l'épreuve. Montre que tu as vraiment la hardiesse de jouer gros jeu. » Car si tu ne relèves pas ce gant,
Ganelon haussa les épaules avec un sourire méprisant.
« Mon pauvre garçon, tu auras perdu avant même d'avoir commencé. Tout le monde fuit les faibles et les pusillanimes. »
La tête du cortège avait presque atteint le château. Devant les grands seigneurs se dressaient déjà les portes de Lindinas. L'adoubement était imminent, et le duc privait son fils de tout délai de réflexion. Le visage juvénile de Blancandin se durcit. Sans même consulter le comte du regard, il répondit à son père d'une voix vibrante.
« Je vous sais gré, monseigneur, de me lancer pareil défi. En combattant afin de permettre l'ouverture du tournoi, je me battrai dès aujourd'hui pour l'honneur de madame ma mère. Je ne décevrai pas vos attentes, et ce sera pour votre déconvenue. »
« À la bonne heure !» répondit Ganelon avec un sourire satisfait.
« Au moins tu parles déjà en chevalier. »
Un incident bizarre interrompit leur conversation. Les paroles du duc furent coupées par un éclat de rire criard, particulièrement discordant et ouvertement moqueur. Surpris, et même un peu offusqués, les trois cavaliers et leur suite cherchèrent des yeux qui pouvaient avoir pareille outrecuidance. Le ricanement semblait tomber du ciel. Tous les regards se levèrent. Une grosse pie était perchée dans le dernier pommier au pied du rempart. Ébouriffée sur sa branche, elle regardait de travers le duc, son fils et le comte de Quimarque. Par son bec grand ouvert, elle expulsait un jacassement désagréablement humain.
« Oiseau de malheur !» grommela le connétable de Traval.
Un écuyer fit mine de frapper le volatile avec sa bannière. Sans attendre son reste, la pie prit son envol en lâchant derrière elle un caquet ailleurs. Toutefois, loin de fuir la presse des hommes et des chevaux, elle remonta la splendide compagnie, frôlant de son vol onduleux la soie des pennons, le menu vert des chaperons, la gaze des guimpes et des coiffes. Elle virevolta entre les lances du petit escadron formé par les chevaliers et écuyers du conroi de Blancandin. Un écart l'amena à décoiffer le chevalier de Kéan d'un soufflet espiègle. L'instant suivant, elle fuyait à tire d'aile en ricassant à pleine gorge. Le choc tira Ivorin de ses rêveries sentimentales. Cela faisait un moment qu'il se laissait porter par le pas de son cheval, ivre de béatitude. La sublime Héloïse lui avait pardonné toutes ses fautes. La sublime Héloïse lui avait fait parvenir ses couleurs. La sublime Héloïse l'avait élu pour champion. Depuis qu'il avait quitté le camp du dehors la veille au soir, il ne revenait pas d'un tel bonheur. Il en avait à peine dormi. L'air le grisait comme le plus doux des Hippocrates, et tout avait revêtu un éclat merveilleux, jusqu'à la mine inquiète de ses compagnons d'armes. La chiquenaude sur la tête, et surtout l'affreuse jacasserie qui avait failli lui percer le tympan, le ramenèrent soudain en selle au milieu des chevaliers du dedans. On le regardait d'un drôle d'air. Il lui fallut un moment pour comprendre ce qui lui était arrivé. Quand enfin il réalisa qu'il avait été heurté par un oiseau, sa première réaction fut de vérifier que le gorget d'Héloïse n'avait pas été souillé. Fort heureusement, la douce pièce d'étoffe qu'il avait nouée à son brassard était exempte de salissure. Ce ne fut que dans un second temps que, lâchant les rênes, Ivorin remit un semblant d'ordre dans sa coiffure. On approchait du château, et les chevaliers de Blancandin conversait d'un air grave. Le bachelier de Kéan, tout comme ses compagnons d'armes, avait déjà revêtu le harnois. Les jouteurs ne portaient cependant ni l'écu ni le haume. Ceux-ci étaient exposés dans la cour du château, afin que les spectateurs pussent les observer à loisir et mieux reconnaître les combattants au cours de l'affrontement à venir. C'était d'ailleurs de cela que parlaient les chevaliers. Ivorin fit un effort pour leur prêter attention au milieu de son étourdissante félicité.
J'ai vérifié de bon matin en quittant l'oratoire avec le prince, disait Dame de Maubrenas. Il n'y a que 7 écus de notre côté.
Quel est le blason manquant? Demanda Gérian de Froec.
Je vous le donne en 1000, celui de Maginois.
Se tournant sur sa selle,
Ivorin se rendit tardivement compte que Dilsin de Maginois ne s'était pas joint à leur troupe.
« Il ne peut faire défection, » arguait le chevalier de Thèves. « C'est le neveu de Madame la Duchesse. Il aura été retardé. »«
Retardé ?» releva le sire de Maubrenas. « Dans ce cas, pourquoi diable son blason ne figure-t-il pas parmi les nôtres ?»
Et se tournant vers Ivorin, il l'apostropha.
« Vous l'avez accompagné quand il a été salué son père hier soir. Que se sont-ils dit ?»
Le bachelier, qui avait l'esprit tout entier obnubilé par les larmes d'Éluise, par la beauté d'Éluise, par la faveur d'Éluise, mit un temps à comprendre ce qu'on lui demandait.
« Oh !» finit-il par répondre. « Nous nous sommes séparés à la barrière. Je ne l'ai point accompagné chez le baron de Maginois. Je devais présenter mes hommages à une autre personne. »
Il brûlait de leur parler d'Éluise, mais s'en abstint au nom de la discrétion que doit cultiver le fin amant. De toute façon, il était persuadé que tous avaient remarqué les couleurs qui habillaient son bras. Si tel était le cas, les chevaliers n'en montraient rien, tout occupés qu'ils étaient à s'inquiéter de l'absence de Dilsin.
« L'aurait-on retenu contre son gré ?» s'alarmait Dame de Maubrenas.
« J'en doute !»
objectait Cohir de Thèves. « Le procédé ferait part trop scandale !»
Mais on aura pu le contraindre par d'autres moyens,
s'entêtait le sire de Maubrenas.
Ces paroles ramenèrent Ivorin aux arguments insidieux de la baronne de Brégor. Il faillit s'en ouvrir à ses compagnons, mais se ravisa au dernier moment. Il lui déplaisait de déconsidérer la tante de la sublime Éluise aux yeux des chevaliers du dedans.
Il a peut-être renoncé de crainte de déplaire à monseigneur Ganelon,
risqua Vichard de Laudunet.
Ou par couardise pure et simple devant nos adversaires, cracha le chevalier de Maubrenas.
Allons, allons, ne médisons point des gens de notre parti,
tempéra Cohir de Thèves.
Il est fort possible que sire Dilsin nous attende déjà dans la cour et que l'absence de son écu ne soit due qu'à un oubli.
Je prie pour que vous ayez raison, dit Fitzurse du Havne, et pour qu'il ne faille point y voir la main de monseigneur le duc.
Les chevaliers poursuivirent leur chemin sur quelques toises, dans un silence pesant.
Il n'en demeure pas moins que les champions adverses sont redoutables,
reprit sombrement Vichard de Laudunet.
Les connaît-on tous,
s'enquit le chevalier de Froec.
Seuls quelques-uns s'étaient déclarés hier soir, répondit le sire de Maubrenas. Le grand bâtard est un rude morceau. Nous devrons veiller sur monseigneur Blancandin pour que ce fils à putain ne lui rompe pas les os comme il l'a promis. Bruin de Bangarde et Urféan de Caquevel en seront également. Ce sont des jouteurs de première force. Du moins, Froisfer est-il un combattant loyal. Je n'en jurerai pas pour Nucred. Que le connétable ne porte point l'armure nous donne un signe favorable,
remarqua le sire de Thèves en pinçant la narine.
Il ne descendra pas sur le pré aujourd'hui. Nous pouvons nous en réjouir. »
Si transporté fut-il par ses sentiments, les noms que citait Dame de Maubrenas dégrisèrent un peu Ivorin. Bruin de Bangarde était un tournoyeur fameux, qui n'avait pas usurpé son surnom de Froisfer. Chevalier de petite noblesse, il s'était taillé une réputation flatteuse en champs clos, accumulant les prises et les prix. Il y avait conquis richesse et renommée. Les jouteurs se disputaient souvent sa présence dans leur conroi, tant la victoire paraissait lui sourire. Quant aux chevaliers de Caquevel, ils couraient moins souvent les tournois, mais avaient accompli des prouesses aux frontières du duché. C'était le fils d'un banneret du connétable de Traval. La baronnie de Traval contrôlait une partie du Chevêchin, le massif montagneux qui séparait le duché des Landes Grises. Bien qu'elles ne fussent pas dévastatrices comme les raids ou romans, des incursions de pillards avaient régulièrement lieu depuis cette terre gaste. Urféan de Caquevel s'était illustré à plus d'une reprise dans la défense des cols. Il avait gagné son sobriquet de Nucred au cours d'un accrochage des plus rudes, où tous ses compagnons ayant été blessés ou tués, il avait barré seul l'accès d'un chemin escarpé à une trentaine de gredins. Ces deux preux en renfort du grand bâtard promettaient une rencontre des plus âpres.
Il était d'ailleurs visible que Vichard de Laudunet n'en menait pas large.
Ivorin se cuirassa de courage.
Il n'aurait que plus de mérite à porter les couleurs de la belle Héloïse.
Quelle que fût l'issue de la journée, il montrerait qu'il était digne de combattre avec un Brommel.
Avant ce soir, il y aura de la casse,
riait Sir Fitzurse de toutes ses méchantes dents.
Au liqueur, encouragea Cowyer de Thèves.
Chez l'adversaire, tous ne valent pas froid se faire. Ollier de L'Aulnay est un tranche-montagne qui n'a de vaillance que face à la piétaille. Nous n'en ferons qu'une bouchée.
Ces paroles résonnèrent sous le porche de la porterie, comme le conroi entrait dans le château de Lindinas. La cour, de dimension modeste, était déjà noire de monde. Une presse de cavaliers masquait en partie les portants où étaient exposés les blasons des tournoyeurs du jour. Au pied de la tour étaient alignés les écus des combattants du dedans. Rien n'avait changé depuis le début de la matinée. Le bouclier aux trois engemmes d'or faisait toujours défaut. Pendant que Dame de Maubrenas sacrait de fort vilaine manière, Gérian de Froeck, dressé sur ses étriers, lançait soudain
« Je vois le baron Échivard dans la suite du duc. Dilsin est avec lui !»
Tous se haussèrent du col pour les apercevoir au milieu de la foule.
« Peste !» cracha le chevalier de Maubrenas. « Il n'est pas équipé pour la joute.
Il faut lui demander la raison de ce renoncement !» convint Cowyer de Thèves, gagné par la nervosité de ses compagnons.
« C'est tout vu !» grommela Fitzurse. « Le duc nous aura joué un tour à sa façon. »
À l'opposé de la tour, les armes des chevaliers du dehors étaient alignées au pied du rempart. La foule était si dense que les blasons en étaient peu visibles. Des mouvements révélaient parfois l'écu d'argent à la hure de sanglier de Bangarde, ou l'écu d'or au pan d'azur rouant de L'Aulnay.
« D'azur à trois coupeaux d'argent !»
s'écria soudain le chevalier du Havne.
« L'orgueilleux de Contremont a relevé notre gant !»
Ivorin ne connaissait pas cet adversaire, mais la nouvelle n'eut pas l'air de ravir les sires de Thèves et de Maubrenas. L'attention de l'assistance se portait cependant vers le centre de la cour. Une estrade pavoisée aux couleurs de Brommel, de Maginois et de Quimarc y avait été récemment installée. Précédée d'un roi d'armes, dont le tabard portait les armoiries du duché et du comté, Ganelon de Brommel, Anguzel de Quimarc et Blancandin venaient d'y monter. Ils étaient suivis par six écuyers portant les pièces d'armure du futur chevalier. Debout au centre de la scène, Blancandin se fit équiper, en commençant par chausser les grèves et les jambières avant de revêtir le gambison matelassé, puis le grand harnois de maille et de plate. Pendant qu'on le bardait de la sorte, le duc s'entretint un moment avec le roi d'armes. Lorsque le prince fut pourvu du gorgerin et des spalières, on le vêtit de la cotte armoriée qui habillait son harnois. Il avait choisi un blason parti, qui accolait la rencontre de Sir Héliophore de Brommel à gauche, aux trois engemmes d'or de Maginois à droite. Cette partition, fidèle à ses lignages, n'en fit pas moins sensation dans la noblesse bromaloise. Blancandin affichait ainsi publiquement sa révolte contre la politique paternelle. Lorsqu'il fut cuirassé, ce fut d'ailleurs devant le comte de Quimarc et non devant le duc que le damoiseau vint s'agenouiller.
« Monseigneur, lança-t-il d'une voix forte, je vous prie de me faire chevalier en échange de mon amitié et de ma loyauté. »
Anguzel ne répondit point immédiatement. Ce silence, assez surprenant, calma les murmures au sein de la noblesse. D'un geste, le comte se fit apporter son épée nue, qu'il tint à l'horizontale à hauteur de ses cuisses. Son expression demeurait indéchiffrable, mais sans doute jouissait-il de l'agacement que Ganelon peinait à dissimuler. Il prit enfin la parole quand la tension allait devenir inconfortable.
« Jures-tu de respecter la sainte foi cyclothéiste et d'obéir à ses commandements ?»«
Je le jure, » répondit Blancandin.
« Jures-tu de défendre la divine tétrarchie, ta terre natale et les humbles ?»«
Je le jure. »
« Jures-tu d'être vaillant
généreux et fidèle à ta parole.
Je le jure.
Le comte Anguzel hocha gravement la tête. Lâchant l'épée de la main droite, il prit son élan et appliqua un soufflet assez rude derrière l'oreille du prince.
« Ce coup sera le dernier que tu souffriras sans riposter !» proclama-t-il.
Ayant repris l'épée par la poignée, il en appliqua le plat de la lame à deux reprises sur chaque épaule du jeune homme.
« Au nom du resplendissant et de ses trois parèdres, je te fais chevalier, Blancandin de Bromel. »
Une fois qu'il eut reçu l'accolade, le nouveau bachelier se releva. Au milieu du public, qui attendait le terme de la cérémonie pour se réjouir, Ivorin se sentit gagné par une soudaine émotion. Tout jeune chevalier, il n'avait pas encore assisté à un adoubement depuis que lui-même avait reçu l'accolée. D'une certaine manière, il se sentait presque à la place de ce prince ducal, lui, le fils de Vavasseur sans fortune. Cette bouffée de fraternité lui donna l'impression d'être élevé au rang de la haute noblesse. Il y puisa un regain de force pour défendre le damoiseau dans la rude partie qui s'annonçait. Un écuyer venait d'apporter une paire d'éperons d'or sur un coussin de pourpre. Le duc et le comte en prirent chacun un et s'agenouillèrent aux pieds du bachelier pour les lui chausser. Un grand silence régnait à présent sur le château. De mémoire de seigneur et de dame, on ne se souvenait pas d'avoir vu deux des plus puissants suzerains du pays ployer ainsi le genou de concert. L'honneur était redoutable. Dans le public, on admirait d'autant plus ce spectacle que tous le pressentaient lourd de rivalité. Pour finir, quand les grands seigneurs se relevèrent, le comte se fit apporter une épée et son baudrier qu'il ceignit au nouveau chevalier. Le fourreau était habillé de velours vert et semé de petites engemmes d'or. Il était clair que l'arme qu'il gainait était au service de la duchesse Odéarde. Ganelon de Bromel avait prévu pareille provocation. Il fit avancer deux écuyers qui apportèrent un coffret fort oblong au prince.
« Dans une existence guerrière, il arrive qu'une lame s'ébrèche ou casse, » expliqua-t-il. Dans ce cas, un chevalier avisé possédera plus d'une corde à son arc.
D'un geste, il fit ouvrir l'écrin. Sur un lit de soie carmin reposait une épée de facture splendide, à la lame niellée d'or et aux pommeaux ciselés des armes de Bromel.
Voici Aînesse, proclama le suzerain. Elle a dormi pendant plus de 20 ans dans le trésor ducal. Il est temps qu'elle sorte de son sommeil et revienne armée un fils de duc. Puisse-t-elle te donner la vaillance, mais aussi la sagesse, Blancandin. Ainsi, te portera-t-elle plus de chance qu'à mon frère Vertigier.
Le prince considéra l'épée de l'oncle qu'il n'avait pas connue avec un mélange d'inquiétude et de déférence. Sans la toucher, il finit par l'accepter d'un hochement de tête.
« J'en ferai un usage qui ne vous décevra pas, père !»
lança-t-il. Le présent provoqua un flottement dans l'assistance jusque parmi les partisans de Ganelon. La réapparition de cette arme funeste et sa transmission au fils rebelle dépassaient la manœuvre d'intimidation. Parmi les vassaux de Kimark, comme parmi ceux de Bromel, quelques seigneurs chenus serrèrent le poing contre le cœur en un geste conjuratoire. L'ombre de Vertigier venait de refroidir cette claire matinée de printemps. L'écrin de l'épée fut refermé et passa entre les mains des valets d'armes de Blancandin. Bientôt, ceux-ci lui rapportèrent son écu, qui, comme sa cotte d'armes, était parti aux couleurs de Bromel et de Maginois. Le prince en passa la guiche en bandoulière et repoussa le bouclier dans son dos. Ainsi équipé, il attendit qu'on lui amenât son cheval. Au cours des jours précédents, les discussions avaient été vives au sein de son conroi afin de décider quel destrier il chevaucherait pour faire ses premières armes. Le prince, encouragé par Fitzurse du Havne, désirait monter le fougueux Bastetal.
La monture était royale et le cadeau que Méléagant en avait fait à son frère participait au défi lancé au duc. Toutefois, Gérian de Froëc et Cohir de Thèves avaient estimé qu'il s'agissait d'un mauvais choix. Les talons étaient ombrageux, se comportaient en dominant et risquaient de semer le désordre dans le conroi. Les deux chevaliers avaient argué que monter le calme et puissant Guéridon serait plus sage pour la cohésion de l'escadron. Certes, l'énorme cheval n'était pas aussi racé que Bastetal, mais il était plus sûr. Compte tenu des périls que le prince allait courir pendant le combat des commensailles, mieux valait élire ce destrier. Ce fut donc Guéridon qu'un écuyer amena dans la cour. Par sa seule puissance, habillé d'une housse brodée d'angèmes et renforcée d'une barde et d'un chanfrein d'acier, le cheval suscita des murmures élogieux. Cependant, les chevaliers de Blancandin ne purent se défendre d'une certaine inquiétude. Si le flegme de cette monture offrait plus de sûreté que le sang chaud de Bastetal, sa taille impressionnante présentait également une difficulté pour la fin du cérémonial. Lorsqu'on eut arrêté le destrier à une dizaine de pas de l'estrade, Blancandin descendit les quelques marches qui le séparaient de la chaussée. Le jeune homme équilibra son bouclier dans son dos, puis, après un coup d'œil pour mesurer la distance, prit son élan d'une foulée souple. Ses compagnons d'armes retinrent leur souffle. Lesté de l'écu et de l'armure, il lui faudrait un fameux coup de jarret pour enfourcher d'un seul saut un cheval aussi haut. En quelques enjambées, le prince arrivait à pied d'œuvre. Il se hissa d'une détente sans céder de l'étrier. Seuls les hommes d'armes confirmés devinèrent l'intensité de la poussée mise dans ce bond, et l'effort avec lequel il avait accroché l'arçon. En un instant, il était en selle, crânement calé contre le trousquin, et il lançait l'énorme Guéridon dans un trot qui faisait vibrer le pavé. Une grande clameur salua la gambade. Blancandin de Bromel avait fait montre de son talent et de sa vigueur équestre. Il était devenu chevalier sans conteste possible. Les preux de son conroi l'acclamèrent plus chaleureusement encore que les autres, soulagés de voir que le damoiseau était de force à combattre avec eux. Leur enthousiasme fut de courte durée. Alors que les vivats résonnaient encore, le roi d'armes prit la parole. D'une voix puissante, il déclara ouvert le combat des commensailles et ajouta une clause inattendue.
Par décision des hauts et puissants seigneurs Ganelon, duc de Bromel, Anguzel, comte de Quimarc, et du chevalier Blancandin, il a été convenu que cette rencontre trancherait certains différends. Si le camp du dedans l'emporte aujourd'hui, le tournoi de l'immortel sera disputé demain. Si le camp du dehors est victorieux, l'host de Quimarc se joindra à celui de Bromel dans une chevauchée contre les clans d'Ouromagne.